14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le meurtrier présumé de Léo Roupiot, Gisèle Kunstler et Michel Fabrice, assassinés lundi au Grand Hôtel de Saint-Quentin, court toujours. Jean-Baptiste Henquin est activement recherché sur tout le territoire français.
Bonjour. Que s'est-il passé dans la tête de Jean-Baptiste Henquin pour qu'il commette le plus effroyable et le plus déterminé des massacres? Lui seul aurait pu peut-être le dire, mais il a gardé jalousement secrètes les raisons pour lesquelles il a écrit, lui, l'homme cultivé, raffiné, ce conte froid comme une journée d'hiver, illustration parfaite d'une névrose pour laquelle ce personnage a toujours refusé d'être examiné par les experts psychiatres, un cas rarissime dans l'histoire de la cour d'assises. 35 ans après les faits, l'affaire Jean-Baptiste Henquin conserve ainsi une grande part d'inconnu et de mystère. C'est cette expédition sanglante, une explosion de frustration et de ressentiment, comme le décrira un enquêteur, que nous avons choisi de vous raconter aujourd'hui. Histoire qui, malgré le temps, hante toujours les imaginations et les souvenirs des témoins. Que s'est-il passé dans la tête de cet homme pour qu'il décide de se faire justice et de punir des innocents? Nous verrons si nos invités et acteurs de cette histoire peuvent apporter aujourd'hui une réponse à cette question centrale.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Jean-Baptiste Henquin, le nom de ce sexagénaire pointilleux, proche de la retraite, va faire la une des journaux à l'hiver 1997. Après la découverte d'un terrifiant massacre dans un hôtel de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Lundi 20 janvier 1997, aux alentours de 10h15, la lingère et un employé d'entretien du Grand Hôtel, rue Dachery à Saint-Quentin, sont dans l'impossibilité de pénétrer dans le bâtiment. Situation pour le moins curieuse, ils ont trouvé porte close. Le téléphone de cet hôtel réputé, 24 chambres luxueuses et son restaurant gastronomique, le président, le téléphone ne répond pas. Les employés alertent alors le directeur de l'établissement voisin, l'Hôtel de la Paix, qui appartient au même propriétaire. Un pass permet d'ouvrir la porte. Le Grand Hôtel est plongé dans le silence et une quasi-pénombre. Personne à l'intérieur. Les employés montent à l'étage où le propriétaire, Léo Roupiot, dispose d'une suite dont il a fait son appartement. En entrant, le spectacle est saisissant. Le corps de Léo Roupiot, 72 ans, gît sur le sol dans une mare de sang. À ses côtés est allongée sur la moquette sa maîtresse, mais aussi gérante de l'établissement, Gisèle Kunstler, 66 ans. Les deux victimes ont reçu de violents coups sur le crâne, portés sans doute par un hachoir de boucher ou une hachette. Le commissariat de Saint-Quentin est aussitôt prévenu. Des gardiens de la paix bouclent les lieux. Les hommes de la police judiciaire de Lille et d'Amiens sont rapidement sur place. Dans l'hôtel désert, les premiers enquêteurs avancent avec précaution. Les employés disent ignorer où se trouve le réceptionniste, la réceptionniste qui aurait dû être à son poste, ainsi que le garçon d'étage, le groom, qui lui aussi manque à l'appel. Les pièces sont passées en revue. Les 8 chambres qui étaient occupées sont vides. Les lits encore défaits. Les clients ont tous pris leurs affaires et leur petit déjeuner. Ils sont partis en ignorant très certainement le drame qui venait de se jouer à quelques mètres deux. Les policiers visitent ensuite les sous-sols, dans la cave à vin, où elle a sans doute été entraînée de force. Ils découvrent le corps de Michel Fabrice, 32 ans, la réceptionniste. Elle aussi a été frappée à coups de hachette. Elle aussi, comme Gisèle Kunstler, a reçu une balle de calibre 22 long rifle à la base de l'oreille droite. La douille est toujours sur place. Pas très loin de là, dans la réserve, les enquêteurs tombent sur le groom, Philippe Bertrand. Le jeune homme est choqué. Il dit avoir été jeté dans cette pièce exiguë à son arrivée à l'hôtel à 7h du matin par le veilleur de nuit, Jean-Baptiste Henquin. Ce dernier, très excité, lui a dit qu'il avait tué tout le monde, mais qu'il allait l'épargner à cause de son jeune âge. Henquin a refermé la porte de la réserve et a disparu. Le patron, la gérante et la réceptionniste du Grand Hôtel ont tous été tués de la même façon. Gisèle Kunstler semble être la seule à s'être défendue. Elle tient encore des touffes de cheveux de l'agresseur dans ses mains. Meurtre sauvage, entouré d'un rituel identique sur les corps des victimes. Le meurtrier a déposé des notes manuscrites vengeresses sur celui de Léo Roupiot qui s'apprêtait à partir en vacances en Thaïlande. Il est ainsi écrit « C'est ton dernier voyage à Bangkok ». Notre mot laissé sur la caisse où officier Michel Fabrice indique que le contenu a été emporté pour que soit réglé le 13e mois. L'argent des victimes, un peu plus de 20 000 francs au total, et leur carte de crédit ont été emportés. Le suspect numéro 1, Jean-Baptiste Henquin, a disparu. Il n'est pas chez lui. Son modeste studio de la rue de l'Est, dans le quartier de Remirecourt, est en flammes. Et c'est bien Jean-Baptiste Henquin qui a mis le feu à son propre logement et a pris la fuite avant même l'arrivée des pompiers. On va tourner autour de ce personnage central dans cette heure du crime. Personnage qui est désormais en cavale. 3 morts, triple crime dans le plus bel hôtel de Saint-Quentin. Mais pour l'instant, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, à cette scène de crime avec notre premier invité qui est dans le studio de l'heure du crime aujourd'hui, Maître Laurent Moreuil. Bonjour Maître.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et à l'époque, vous aviez défendu les sœurs de Gisèle Künzler, c'est-à-dire la gérante qui a été horriblement assassinée. Maître Moreuil, il y a quelque chose de très choquant dans ce triple crime. D'abord, il y a 3 personnes qui ont été assassinées froidement. Il y a toute une mise en scène dans ces pièces.
Oui, il y a toute une mise en scène. C'est totalement macabre, c'est un mot qui va beaucoup revenir et dans le dossier d'instruction et à l'audience. J'étais, comme souvent c'est le cas en matière criminelle, présent à la reconstitution, donc j'ai pu visiter cette chambre, qui était la chambre de Léo Roupioz et de Gisèle Künzler, qui était sa compagne depuis près de 40 ans. C'était pas sa maîtresse, c'était sa compagne.
Est-ce qu'il est marié, il faut dire? Bon,
Il est marié. Dans mon souvenir, il était marié. Et il entretenait en quelque sorte deux vies.
C'est ça. Mais tout le monde était d'accord. Ça posait pas de problème.
Oui, il y avait une espèce de consensus. Et donc cette chambre 101 dans ce grand hôtel très luxueux, qui est en effet le plus bel hôtel de Saint-Quentin. Il y a cette découverte effectuée, je crois, par un employé d'un hôtel à côté, un bain de sang.
Il y a ces mots qui sont laissés sur les corps des victimes. Ça, c'est quand même troublant parce que là, on signe. Il y a une espèce de vengeance écrite.
Ah oui, la vengeance est écrite et puis elle est signée. Et donc elle est totalement assumée. Il y a des mots sur le corps des victimes, vous en rappeliez tout à l'heure les termes. Dans le livre entrée-sortie du personnel, une mention manuscrite portée par l'assassin, du type « sortie définitive des effectifs ».
Ouais, c'est ça. Ouais,
voilà. Ce qui est tout de même absolument surréaliste et pourrait laisser penser qu'on a, dans cette affaire, finalement une grosse implication au droit du travail, mais on verra que, en effet, tout ceci est parfaitement orchestré et donc écrit de la main du tueur.
On peut supposer que dans cette petite ville de Saint-Quentin, qui est une ville normalement tranquille, c'est un véritable choc cette histoire, parce que le patron, Léo Roupioz, c'est plutôt quelqu'un de bien, c'est un homme affable, etc., qui est respecté. Sa gérante également, et puis je parle même pas de la petite réceptionniste qui n'a jamais fait parler d'elle.
Oui, alors je crois me souvenir qu'évidemment ça fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est Léo Roupioz qui tient ce très bel hôtel, qui est le plus beau du coin, est une personnalité locale. Gisèle Künzler est là tous les week-ends et l'aide à administrer l'hôtel. Après, c'est une entreprise, donc il y a quelques frottements avec certains et pas avec d'autres. Mais
comme dans toute entreprise, d'ailleurs.
Voilà, mais il est certain que c'est un choc et une sidération totale localement. Je me souviens d'articles de presse très très marquants parce que c'était extrêmement spectaculaire et vraiment macabre.
Et encore une fois, Maître Moreuil, on n'a rien vu venir. C'est-à-dire, il n'y avait pas de signe avant-coureur ou peut-être qui était au sein de l'hôtel. On va y venir, mais à l'extérieur, on ne voyait rien, hein ?
Pas que je sache.
Voilà. Maître Anne-Laure Pilon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Alors, votre témoignage ce que vous allez pouvoir nous dire, c'est très important parce que vous avez été à l'époque l'avocate de Jean-Baptiste Henquin. Alors là, on est au tout début de l'affaire. Ce fameux Henquin, il est en cavale. Évidemment, tous les soupçons se portent sur lui. Il a quasiment signé ses crimes. Est-ce que vous pouvez nous dire, et on va le détailler ensuite dans l'heure du crime, Maître Pilon, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Jean-Baptiste Henquin?
Alors j'étais effectivement toute jeune avocate au moment de son procès, parce qu'en fait le cabinet ne représentait pas pendant le cadre de l'instruction, une instruction dans laquelle il a été globalement relativement absent, en tout cas refusant effectivement les expertises, refusant avec ses motivations à lui. Monsieur Hennequin était un personnage particulier dans le sens où il était assez vide d'affect. C'est quelqu'un qui n'était pas totalement dans la revendication de ses actes, mais qui par contre les assumait totalement. Il avait pour lui de bonnes raisons d'agir. Et il était totalement incontrôlable dans sa parole. Il est venu expliquer devant la cour d'assises qu'il avait de bonnes raisons de le faire.
Voilà. Alors on va y venir à ces bonnes raisons, entre guillemets, il faut mettre des guillemets dans cette histoire. Bonnes raisons de le faire. Maître Pilon, à l'époque, dites-nous un petit peu, il est gardien de nuit, c'est un employé modeste de ce bel hôtel.
C'est un employé modeste de ce bel hôtel, mais assez convaincu que sans lui, l'hôtel ne pouvait pas bien tourner et qu'il était le meilleur et le plus, le meilleur des employés et celui qui avait le plus en tête l'intérêt de l'hôtel.
Il est un peu au centre du fonctionnement de l'établissement, c'est ça ?
C'est en tout cas comme ça qu'il se vivait, et avec un jugement à l'égard de chacun, et personne ne l'égalant, mais sans non plus être imbu de lui. C'était pas comme ça qu'il le décrivait. C'était plus avec une exigence de ce que doit être le travail fait, le travail bien fait, et avec un regard sur ceux qui, selon lui, n'effectuaient pas correctement le travail.
Il y a un côté un peu militaire chez lui, hein, chez Hennequin.
Tout à fait.
Voilà, il est un peu jugulaire, et il ne plaisante pas, etc. Encore un mot, maître Pilon, puis on va longuement parler évidemment de votre client au fil de cette émission. Encore un mot, à quoi est-ce qu'il ressemble physiquement, Hennequin ?
Alors un homme à la fois passe-partout et en même temps je trouve qu'il il dégageait cette... Alors effectivement, un homme plutôt élégant, avec des lunettes relativement grand, mince, mais quelqu'un qui physiquement démontrait déjà toute sa rigidité.
La traque du meurtrier présumé du Grand Hôtel est lancée. Le veilleur de nuit était un homme sans doute ombrageux et très solitaire. Il est en cavale. Pas facile de retrouver rapidement sa trace. Mardi 21 janvier 1997, lendemain de la découverte du massacre au Grand Hôtel, le juge de Saint-Quentin, Jean-Yves Lourgouillou, est désigné pour instruire le dossier. Le but est de retrouver au plus vite le suspect numéro 1, le veilleur de nuit Jean-Baptiste Hennequin, mais aussi de connaître le plus précisément possible le déroulement des faits. Il est établi qu'au cours de la nuit, le meurtrier s'est tout d'abord introduit dans la suite occupée par le propriétaire de l'établissement grâce à un pass magnétique. Il a commis là les deux premiers meurtres, celui de Léo Roupioz et de la gérante Gisèle Künzler. Les enquêteurs évoquent dans cette suite à la moquette et une folie meurtrière, tant les coups portés étaient destinés à faire éclater les crânes des victimes. Hennequin a ensuite attendu l'arrivée de la réceptionniste Michèle Fabrice pour lui sauter dessus, la traîner de force dans la cave à vin et la tuer. Il a ensuite enfermé le groom dans la réserve et l'a épargné. Dès 7h30, comme si de rien n'était, Hennequin a servi tout seul les petits déjeuners aux clients, a encaissé les notes. Au chef de cuisine, passé rapidement pour préparer les commandes, il a expliqué qu'il devait se taper tout le boulot. Ses collègues étaient souffrants ou en congé. Il apparaît que sur le registre du personnel, le veilleur de nuit a noté avec un terrifiant cynisme que les absences de Michèle Fabrice et Gisèle Künzler étaient définitives. La police judiciaire essaie de localiser Jean-Baptiste Hennequin. Les premières recherches effectuées dans les gares, auprès des compagnies de cars et de taxis, dans les hôpitaux, les foyers, les hôtels, ces recherches restent vaines. Il apparaît que l'individu n'a qu'un cercle restreint de connaissances. Il n'est pas dans sa nature d'aimer le contact et de se lier d'amitié avec le premier venu. Ceux qui le connaissent sont discrètement placés sous surveillance, mais il apparaît très vite que ce travail ne portera pas ses fruits. Hennequin, qui n'a aucune fortune et vivait plutôt chichement avec son maigre salaire, est parti avec l'argent de ses victimes et une partie du fonds de caisse, mais il ne pourra pas subsister très longtemps avec ce pécule. Il se déplace sans doute à bord de la Volkswagen Polo, dérobée à la réceptionniste, le 29 janvier, une semaine après le triple crime, l'Apollo est retrouvé à Amiens, près du boulevard Carnot, non loin de la gare. Dans le coffre, il est retrouvé la hachette qui a servi au massacre. Elle avait été acquise plus d'un mois auparavant dans une quincaillerie de Saint-Quentin. Les enquêteurs craignent que Jean-Baptiste Hennequin se soit enfui à l'étranger. Il a pu, depuis la gare d'Amiens, se rendre aisément en Angleterre, un pays qu'il connaît bien et dont il parle parfaitement la langue. Il a travaillé pendant 11 ans comme jardinier à Londres. Après la publication d'un avis de recherche, les témoignages sont passés au tamis. Hennequin aurait été vu à Paris, notamment dans le quartier latin. Mais impossible de localiser le veilleur de nuit au visage émacié et aux cheveux gris. Il semble avoir disparu de la circulation jusqu'au 22 mai 1997. Ce jour-là, un vol est signalé par le patron de l'hôtel de la Nouvelle-France dans le 10e arrondissement de Paris. Un client qui loge ici depuis le mois de janvier, un certain Jean Dampierre, est soupçonné. Les policiers trouvent dans sa chambre une 22 longs rifles, réplique de fusil d'assaut américain, 13 cartouches, 3 coupures de presse sur le drame de Saint-Quentin. Jean-Baptiste Hennequin, alias Jean Dampierre, est arrêté. Et on va voir dans le chapitre suivant quel mobile exact, ou en tout cas celui que vont pouvoir définir les enquêteurs, quel mobile anime Hennequin pour avoir commis de tels crimes, cette haine rentrée qui se dessine dès le début de l'enquête. Anne-Laure Pilon, maître Anne-Laure Pilon, avocate, et à l'époque avocate de Jean-Baptiste Hennequin, vous avez commencé à esquisser le portrait de votre client, et à l'époque, à ce moment-là de l'enfer, tueur présumé de ces trois personnes. Et c'est un homme qu'on ne connaît pas finalement, Hennequin, parce que c'est un pur solitaire.
C'est un pur solitaire, et ce qu'il m'a donné à moi comme impression, et j'ai passé 5 jours entiers avec lui à la maison d'arrêt à discuter, à préparer son audience, j'ai trouvé que c'était un homme qui finalement ne connaissait pas l'amour et n'avait jamais connu l'amour et ignorait ce que ça pouvait être. C'est un homme qui pouvait dire aux assises « Oui, j'ai des amis », sauf que non, il n'avait pas d'amis. Il savait pas ce que c'était que l'amitié. C'est un homme qui, effectivement, ne vivait qu'avec lui-même.
Il vivait avec lui-même au point que les enquêteurs vont avoir un mal fou à trouver une photo de lui. Il va falloir attendre très longtemps dans l'enquête pour qu'on puisse afficher cette photo sur l'avis de recherche.
Tout à fait, parler de ses enfants était quelque chose d'impossible parce que finalement il les connaissait pas et puis qu'il y voyait rien à redire, il se rendait pas compte qu'il était juste très différent de tout le monde.
Alors, un homme différent, effectivement, il faut quand même préciser, Maître Pilon, parce que ça apparaît très vite dans le dossier, qu'il a quand même un passé judiciaire violent, Hennequin.
Tout à fait.
Il a failli tuer sa femme et il a même, je crois, éborgné quelqu'un dans le bois de Boulogne.
Tout à fait, il a éborgné un travesti de mémoire qui l'avait interpellé parce que il était en train d'uriner entre guillemets sur le lieu de travail du travesti et ça s'est terminé en bagarre. Ça s'est terminé en bagarre parce que là encore, c'est un homme, monsieur Hennequin, qui avait une idée et qui s'est très vraisemblablement construit depuis la toute petite enfance dans un parcours compliqué. Il s'est construit avec une idée de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas.
Alors,
et qu'il agissait en fonction de ce moteur-là chez lui.
Oui, mais enfin, sa femme, il a bien failli l'étrangler.
Je dis absolument pas le contraire. Et il a d'ailleurs été condamné lourdement et à juste titre là-dessus. Ça, c'est une évidence.
D'accord. Donc, c'est effectivement un passé ou un passif, appelons-le comme on veut, qui va peser, évidemment, en sa défaveur lors du procès qui s'annonce. Maître Laurent Moreuil, vous allez être bientôt sur les bancs de la partie civile. Vous allez défendre les sœurs de Gisèle Künzler, avocat au barreau de Paris. Alors, est-ce qu'on peut parler de préméditation dans ce triple crime ou bien c'est un coup de folie subi et spontané ?
La préméditation, je vais y arriver, ne fait strictement aucun doute dans le dossier. Elle est établie par le dossier vous l'avez rappelé, par l'achat de la machette un mois et demi alors ou un mois avant l'assassinat, enfin les assassinats, ce qui en soi n'est pas probant, mais à l'audience, il n'y a aucun doute. Et puis la chronologie des faits aussi établit la préméditation de façon totalement irrémédiable, puisque même à considérer que, sous le coup de la colère, bon, il est tout de même monté froidement en plein milieu de la nuit dans la chambre de Léo Roupioz et de Gisèle Kunstler. Par conséquent, on peut douter, armé donc d'une machette et d'une carabine, par conséquent, on peut considérer assez facilement qu'il avait décidé de faire ce qu'il a fait. Et puis ensuite, il va attendre plusieurs heures, vous l'avez aussi rappelé, que la réceptionniste de jour arrive, voilà, et qu'elle, en lui disant qu'il y a une fuite dans la cave pour la faire descendre et pour lui réserver le même triste sort. Par conséquent, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, et je suis certain que mon confrère qui défendait à l'époque Monsieur Hennequin partagera ce constat. C'est
votre
quelque chose.
Votre consoeur, maître.
Bah, mon consoeur. Oui. Maître, enfin, je dis parfois mon confrère. Consoeur, c'est très discuté en ce moment.
C'est
donc
une
en tout
dame.
Cas ma consoeur. Oui, je sais que c'est une dame. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Ce que je voulais dire, c'est que elle admettra sans doute que c'était quelque chose qui était assumé par Jean-Baptiste Hennequin. Assumé, voire revendiqué à l'audience, où chacune de ses interventions le montrait.
Maître Pilon, bah justement, juste un mot sur la préméditation. Ça faisait longtemps qu'il pensait à abattre ces personnes.
Ça faisait longtemps qu'il était à bout, qu'il estimait que ces personnes faisaient mal leur travail, et il est effectivement venu l'affirmer avec beaucoup d'indécence au demeurant, lors de l'audience, y compris face à des parents dévastés de cette jeune femme d'une trentaine d'années, qui était leur fille unique. Et oui, il avait bien évidemment, alors peut-être pas si rapidement anticipé le jour, etc., etc., ni même peut-être qui il allait attaquer entre eux, entre les voisins qu'il supportait plus de son domicile, mais il savait qu'il allait passer à l'acte, oui.
Il le fallait, puis il avait cette carabine, il avait...
Tout à fait.
Il avait acheté ce hachoir dans un magasin, donc tout était prêt pour l'expédition finale, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Le veilleur de nuit est mis en examen pour 3 assassinats et la séquestration du groom. Le juge va avoir tout le loisir de faire connaissance avec le suspect et de savoir ce qui l'a poussé à commettre le pire. En ce mois de juin 1997, Jean-Baptiste Hennequin est entendu par le juge Lourgouillou. Il ne scie pas et ne montre aucune émotion lorsque le magistrat détaille l'horreur des crimes perpétrés à l'étage et au sous-sol du Grand Hôtel. Il s'avère que, pendant des mois, peut-être même des années, Hennequin s'est recroquevillé dans une haine indicible vis-à-vis de ses employeurs et de sa collègue réceptionniste. Ainsi, il ne supportait plus aucune remarque de la gérante Gisèle Kunstler, réputée pour son intransigeance. Il n'hésitez pas à lui répondre sur un ton excédé et agressif. Léo Roupioz, le propriétaire, n'avait pas apprécié cette attitude et multipliait les avertissements à l'encontre du veilleur de nuit. Le 13 janvier, soit une semaine avant les crimes, Roupioz l'avait menacé par lettre de le mettre à la retraite. Le 18 janvier, il avait rédigé une deuxième lettre, non envoyée, dans laquelle il lui reprochait un langage grossier, diffamatoire, concernant Michel Fabrice, la réceptionniste. Hennequin détestait ses rires et ses sourires. Il a soupçonné d'être une cafteuse, de rapporter ses moindres faits et gestes au couple de patrons. Jean-Baptiste Hennequin, amoureux de littérature et de botanique, n'en est pas à son premier accès de violence. Il avait été renvoyé d'un hôtel 5 ans auparavant pour son irascibilité. À Saint-Quentin, il menaçait régulièrement les voisins dont il ne supportait pas les aboiements des chiens. Il les menaçait au téléphone, la nuit.
Dès qu'il est arrivé dans la rue, il a eu des problèmes avec tous les voisins. Bon, avec nous, c'était des conflits permanents puisque ce monsieur qui travaillait de nuit n'acceptait pas du tout que les voisins vivent le jour, en fait. Donc, c'était des insultes. Ils sont allés jusqu'aux menaces de mort, disons-le, hein, puisqu'il m'a personnellement dit que ça finirait mal, etc.
Par le passé, il avait déjà été condamné pour violence contre son ex-femme, qu'il avait un jour tenté d'étrangler, contre également un travesti du bois de Boulogne à qui il avait crevé un œil. Tout le monde décrit Hennequin comme un grand paranoïaque qui se sentait cerné par une armée de détracteurs. Et il appartiendra donc au psychiatre, peut-être. On verra ce que cela donnera de savoir ce qu'il y a vraiment dans la tête de cet homme. Maître Anne-Laure Pilon, témoin important aujourd'hui dans cette affaire, puisque vous défendez Jean-Baptiste Henquin. Vous l'avez vu en prison, vous nous l'avez dit, vous lui avez beaucoup parlé, il s'est sans doute confié à vous. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était quelqu'un de dérangé, comme on dit ?
Dérangé, pour moi, n'est pas le terme. C'était quelqu'un d'handicapé. D'handicapé du cœur qui s'était construit autour de, effectivement, de la culture. C'était un homme très cultivé, c'était un homme qui aimait apprendre, qui maîtrisait plusieurs langues. Mais c'était quelqu'un de profondément qui pouvait pas... une absence d'émotion chez cet homme, ça c'était une évidence. Pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit.
Il ne pouvait pas aimer. Alors vous nous l'avez dit, Maître Pilon, lors de ses auditions avec le juge, en préparation évidemment de ce procès, il ne va pas parler beaucoup, Henquin, mais il ressent tout de même quelque chose de ses auditions, c'est qu'il raconte quand même volontiers cette haine qu'il a en lui.
Ah, il raconte volontiers cette haine, il peut se montrer, et au procès il se montrera assez affable, il n'évitera aucun mot, et bien au contraire, et pas d'ailleurs du tout dans le but de faire mal, mais parce que c'est quelqu'un qui dit les choses comme il les ressent. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je me contredis quand j'expose qu'il a, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas les sentiments. En tout cas, pas à l'égard de l'autre. Il a une absence totale d'empathie. Et effectivement, il disait très facilement des choses que personne n'oserait dire d'ailleurs.
Comme on dit trivialement, il parle sans filtre. Hein. C'est comme ça. C'est-à-dire que
tout à voilà, fait, hein, il parle sans filtre.
Voilà, il y a pas de, il mesure pas ses propos. En tout cas, il dit. Cache sa vérité. Maître Laurent Moreuil, vous défendiez à l'époque les sœurs de Gisèle Kunstler. Pourquoi ? Il y a un truc bizarre dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il a laissé le groom vivant ?
Ben, on en a l'explication dans le dossier, assez clairement, puisque alors le groom lui-même avait dit à l'audience et rappelé à l'audience qu'il s'entendait bien avec quelqu'un en disant son seul défaut c'est qu'il était un peu impulsif. Bon, ça se passe de commentaires.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais ce qui visiblement a sauvé la vie de ce jeune homme, c'est le fait qu'il jouait au keno avec lui. Et ça avait été rappelé de mémoire par quelqu'un à l'audience qui disait qu'en effet, il jouait au keno avec lui. Et visiblement, pour aller un peu plus loin que ce rappel des faits et des déclarations, je pense qu'en effet, Henquin, dans une espèce de vision pour le moins manichéenne du monde et ses rapports avec les gens, ne mettait pas ce groom dans la même catégorie, dans le fond, que...
Il n'était pas une menace, ce groom.
Il n'était pas une menace et il y avait d'un côté les patrons, qui étaient ses tourmenteurs, les puissants. Il y avait la réceptionniste qu'il appelait l'œil de Moscou,
ouais, c'est
ce
ça,
qui est quand même très révélateur.
L'espionne,
l'œil de Moscou, il l'avait qualifié comme ça. Et le groom, lui, était un travailleur qui était plutôt, en quelque sorte, dans son camp et qui ne méritait pas la mort puisque c'est lui qui a décidé qui vivrait et qui mourrait ce jour-là.
Donc ça s'appelle la toute-puissance et la paranoïa, ça, hein, en quelque sorte. Hein.
Alors malheureusement, je pense, enfin, on n'en sait pas plus, en tout cas pas sous la plume de ceux qui savent, c'est-à-dire les experts, puisque on en parlera, j'imagine, mais il n'y a pas eu d'expertise.
Il n'en voudra pas, et on va le
c'est
dire.
C'est ça, c'est ça.
Maître Anne-Laure Pilon, encore un petit mot. La reconstitution, 12 février 1998, dans cet hôtel, on a brièvement parlé avec Maître Moreuil. Il s'y prête volontiers à cette reconstitution ?
Alors, je n'y étais pas. Nous n'étions pas son avocat au moment de la période de l'instruction, donc je n'y étais pas.
Donc vous pouvez pas dire si... Et Maître Moreuil, un mot, il est là
Oui, moi j'y étais, il était là, et il était tout ce qu'il y a de, comme on dit, coopératif.
Même s'il continue de refuser l'examen des psychologues et des psychiatres, le veilleur de nuit va être renvoyé devant une cour d'assises. Lequel de ces deux visages, celui de l'homme cultivé ou de l'homme violent, va-t-il présenter ? Ce 16 juin 99, Jean-Baptiste Hennequin, 64 ans, grand et élancé, cheveux poivre sel soigneusement coiffés, costume trois pièces impeccable, lunettes cerclées de métal, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de l'Aisne à Laon. L'ex-veilleur de nuit du Grand Hôtel ne cherche pas vraiment à figurer sous son meilleur jour. Lors des débats, il apparaît d'emblée comme un homme misanthrope qui méprise les médiocres, les jeunes serveuses qu'il voit comme des écervelés, un personnage qui s'est laissé submerger par une vague de détestation. Il fait front sans jamais baisser les yeux face aux témoins, aux jurés, aux parties civiles. Il accuse le propriétaire de l'hôtel d'indifférence. Madame Gisèle Kunzler, est-elle présentée comme une femme humiliante qui voulait tout régenter? Quant à la réceptionniste, il lui reproche sa manière de glousser et de ricaner quand il était persuqueté. La déposition de la mère de la victime ne semble absolument pas l'émouvoir. Difficile de savoir qui se cache vraiment derrière le visage impassible de Jean-Baptiste Hennequin. Un homme qui ne s'excuse pas et n'a aucune difficulté à évoquer les corps ensanglantés laissés derrière lui. Impossible de savoir si l'ancien veilleur de nuit présente ou non des failles psychiatriques. Il a refusé toute expertise psychologique qui aurait pu aider à cerner ses obsessions et ses névroses. Même son avocate regrette ce refus pour cet accusé venu, dit-il, devant la cour d'assises avec sa loyauté. Le 18 juin 99, Hennequin est condamné à la perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans. Maître Anne-Laure Pilon, à l'époque, c'est vous qui avez la difficile charge de défendre cet homme que j'allais dire qui est presque indéfendable, Jean-Baptiste Hennequin. Trois meurtres dans son sillage, deux jours de procès, zéro excuse, zéro regret.
Oui, tout à fait. Zéro excuse, zéro regret. J'y étais préparée puisque je l'avais vu n'en exprimer aucun auparavant. Il a même pas compris qu'il pouvait aussi, à travers ça, entre guillemets, donner un procès aux victimes. C'est aussi parce qu'il est dans la compréhension de ça qu'il a refusé des expertises avec des victimes qui avaient quand même besoin de comprendre. Et tout au contraire, il a ce qui a pu passer, j'ai entendu tout à l'heure mon confrère le dire, pour de la revendication, il a tenu des propos terribles. Et à la question, par exemple, du président, mais monsieur, vous aviez déjà mis un coup de hache, pourquoi un coup de carabine? Ouais. Sa réponse sera, elle bougeait encore, il fallait bien l'achever.
Alors là, c'est terrifiant ce que vous racontez, parce que
c'est terrifiant.
C'est même pas du dédoublement de la personnalité, puisqu'il assume complètement son geste. Il dit pas c'était pas moi, il dit c'était moi.
Non.
Et voilà comment je l'ai fait.
Oui.
Ce qui est rare en matière criminelle, c'est relativement rare, hein, ce genre de déclaration.
Ah, c'est effectivement rare, et le rôle d'un avocat de la défense est aussi parfois d'essayer de préparer et d'ajuster les réponses. Avec lui, c'est quelque chose qui était strictement impossible à faire. On ne pouvait que se contenter de l'écouter, et on le voyait se transformer dès lors que qu'on avait l'audace à un moment ou à un autre de ne pas entendre ce que lui voulait exprimer.
Un homme,
ou de ne pas être en accord avec lui.
Un homme pétri de colère et de certitude. Maître Laurent Moreuil, vous, à ce procès, vous êtes l'avocat des sœurs de Gisèle Kunzler. C'est une famille, les Kunzler, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils essaient tant de savoir ce qu'il y a dans la tête de cet homme, mais ils n'y parviennent pas.
Ben, ils n'y parviennent pas, puis ils n'y sont pas aidés. Parce que, comme vient de le rappeler ma consoeur, il n'y a aucune espèce de regret, il est totalement cash, totalement direct, totalement implacable dans ses réponses. On nous a rappelé cet incident d'audience qui, c'est l'un de mes plus grands souvenirs d'audience. J'ai jamais vu ça avant ni après. Ce moment où, en effet, il explique pourquoi il avait aussi une hache, parce qu'il savait que les armes automatiques s'enrayent facilement. Ou encore lorsque enfin on parle de la personnalité de la victime et quelqu'un n'a rien dit depuis quasiment 2 heures, il prend la parole pour dire aux parents, je voudrais dire aux parents, ce qui génère un moment d'espoir à l'audience.
Et qu'est-ce qu'il dit alors?
Et il dit, je voudrais dire aux parents que s'ils ne l'avaient pas élevé comme ça, ça ne serait pas fini comme ça. Voilà ce qu'il dit.
Ah, il donne une leçon.
Il donne une leçon aux parents, en expliquant de la sorte son geste. Donc, comme le disait ma consoeur, c'est en défense, un exercice d'ailleurs auquel je rends hommage en passant, très compliqué avec un homme qui est aussi déterminé à la fois dans ses actes et dans sa manière d'assumer ses actes.
Maître Pilon, il y a un chaînon manquant dans cette histoire, ce sont les fameuses expertises psychiatriques. Alors je sais qu'on prête beaucoup aux experts, sans doute un peu trop parfois en matière criminelle, mais là il y a un vide quand même, hein.
Ah, il y a un énorme vide et je pense que pour le coup, on aurait eu des expertises face à une personnalité comme celle-ci, on aurait eu des expertises extrêmement intéressantes et alors qu'il n'aurait rien changé au sort de Monsieur Henquin, parce qu'il n'aurait pas non plus changé lui, mais qui aurait permis certainement peut-être aux victimes de comprendre. Alors comprendre veut pas dire excuser, mais comprendre peut peut-être un tout petit peu apaiser. Je n'oublierai jamais ses parents, et mon confrère vient de le dire, qui, au-delà de s'entendre dire ça, sont limite accusés d'avoir mal élevé leur fille.
Oui. Et puis il va y avoir la déposition, en quelques mots, la déposition de la maman, de la réceptionniste, qui a été un moment aussi fort, parce qu'elle est venue, elle était accablée, cette femme.
Tout à fait. Totalement accablée, et comme je le rappelais tout à l'heure, moi j'ai le souvenir de personnes assez âgées qui avaient dû avoir leur fille sur le tard, et c'était leur fille unique, et c'est des gens qu'on a vus pendant 2 jours effondrés. Leur souffrance était perceptible, je dis pas que celle des autres victimes ne l'était pas, mais moi j'ai été extrêmement marquée par la souffrance de ces parents-là, et face à un homme qui ne voyait même pas cette souffrance, et qui de toute façon était à mon sens dans l'incapacité même de la comprendre.
Le gardien de nuit et tueur de 3 personnes va rejoindre pour de très longues années la prison, avec l'espoir peut-être de pouvoir demander sa libération à partir de 2021. En cette année 2017, Jean-Baptiste Henquin, désormais âgé de 81 ans, attendrait son heure pour pouvoir sortir bientôt de prison. Une perspective qui, malgré les années, semble toujours effrayer les familles des 3 disparus. L'un des avocats des parties civiles, maître Antonini, décrit alors un criminel qui se porte comme un charme. L'idée d'une remise en liberté un jour de Jean-Baptiste Henquin est à la fois inimaginable et insupportable pour les familles, indique l'avocat, qui ajoute de la façon la plus sérieuse: j'espère que quand il sortira, ce sera pour aller directement au cimetière. Stéphane Fabrice, qui lors du massacre avait perdu son épouse, Michel, la réceptionniste, reste lui aussi sous le choc et ne peut imaginer le meurtrier en liberté. Il confie au journal Le Courrier Picard qu'il n'a jamais fait le deuil de ce drame. Jean-Baptiste Henquin n'est finalement jamais sorti de prison. Il s'est éteint avant d'avoir pu retrouver la liberté, sans avoir livré ses pensées les plus intimes et les plus secrètes, emporté par sa colère. Le Grand Hôtel, lui, a fermé ses portes en 2019. On retrouve au téléphone de l'heure du crime maître Anne-Laure Pilon, qui a été l'avocate de Jean-Baptiste Henquin. Il est mort en prison, c'est bien ça, votre client ?
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Il est mort de maladie
Alors, j'avoue que j'ai pas de détails. C'est, là encore, hein, Monsieur Henquin, à un moment ou un autre, nous étions deux avocats de la défense. C'est pas du tout, contrairement à beaucoup d'autres condamnés, c'est pas du tout quelqu'un qui a entretenu un lien, y compris postérieurement à sa condamnation.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose quand il a été condamné, quand le verdict est tombé? Est-ce qu'il a eu un mot? Est-ce qu'il a eu une réflexion?
Alors,
une
sur
attitude
le principe, il savait ce qu'il se passerait pour lui et ce qu'il serait décidé. Je crois me souvenir qu'au président, il a lui-même dit, face à une interdiction des droits civiques qui avait été prononcée, alors qu'il vient d'entendre une condamnation telle qu'il se prononce sur le fond, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mes droits civiques en maison d'arrêt ?
Ah oui, donc ça continuait dans cette espèce de logique implacable,
oui, oui.
À savoir que c'est toujours un peu le côté réglementaire qui prévaut.
Tout à fait.
Et on sort jamais de ce schéma. Est-ce que vous avez le sentiment, maître Pilon, c'est une question qui me trotte dans la tête, que finalement il a eu dans sa tête, à lui, le tueur, l'impression de régulariser une situation qui lui paraissait injuste. Voilà.
Ah oui, c'est une certitude. Dans son esprit, aussi terrible que ça puisse être, oui. C'est exactement ça, je pense, oui.
Il fallait qu'il remette les pendules à l'heure, même si c'est atroce.
Oui.
Hein, c'est effectivement.
Ça me paraît être exactement ça, oui.
D'accord, donc il était dans cette logique-là. Maître Laurent Moreuil, vous étiez, je l'ai dit, du côté des partis civils, avocat des sœurs de Gisèle Künzler. Il y a quelque chose de troublant, c'est que lorsqu'il peut commencer prétendre à pouvoir sortir de prison, Jean-Baptiste Henquin, tous les avocats des partis civils ont la frousse. C'est-à-dire que vraiment tout le monde a peur que ce type-là puisse sortir de prison.
Ouais, oui, la frousse, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le parquet général, comme il le fait dans ce type d'affaires, a tenu à informer les conseils des parties civiles du décès de l'accusé. Mais c'est vrai que il était plus qu'inquiétant. Il était littéralement glaçant, comme on l'a dit. Et encore une fois, et comme le rappelait ma consoeur tout à l'heure, l'absence d'explication est toujours un facteur, je crois, qui majore l'angoisse. C'est-à-dire qu'en l'absence d'expertise médico-psychiatrique et face à quelqu'un qui était totalement dénué d'empathie et ce qui qualifie en général la psychopathie, justement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui a pu se passer, il n'y a aucun regret et donc ça peut recommencer.
Donc il y a, expliquer... un degré de dangerosité extrême.
Extrême, à tel point que j'étais moi convaincu de la nécessité donc de l'éliminer définitivement socialement, puisque en effet tout était possible et que la détention provisoire et le procès n'ont joué aucun rôle dans sa rédemption et dans sa réinsertion très potentielle dans la société. La messe était dite.
La messe était dite. Et vous nous l'avez dit lorsqu'on a préparé cette émission, c'est que c'est une histoire, vous, avocat, vous étiez jeune avocat à l'époque, qui vous a marqué à vie, j'ai l'impression.
Ah oui, en tout cas, l'audience était absolument deux jours d'audience dont je me souviendrai toujours. Les interventions, cette espèce de caractère implacable de l'accusé, et c'était très remarquable et... J'ai pas souvenir avoir vécu ça dans d'autres affaires pénales, une telle personnalité, très très hors du commun.
Maître Anne-Laure Pilon, ben le mot de la fin sera pour vous, mais je vous pose la même question. Vous avez, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit oh, « ça, je veux en parler parce que c'est un dossier qui m'a marqué, pourquoi ?»
À peu près pour les mêmes raisons que mon confrère. C'était une personnalité sidérante. Je suis assez d'accord, même si on n'est pas des experts psychiatres ou psychologues, quand il évoque vraisemblablement une certaine forme de une personnalité psychopathe. Je pense aussi qu'il serait demeuré dangereux et malgré tout, je pouvais pas m'empêcher d'avoir pitié de cet homme. Parce que pour moi, il était passé à côté de la vie, à côté de la réalité de la vie, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était dénué d'amour, mais qui n'avait jamais non plus reçu d'amour. Et c'est pas du tout pour les dédouaner de quoi que ce soit que je dis ça, mais quelqu'un qui était passé à côté de la vie et de tout ce qui pouvait être beau dans la vie, de l'échange avec l'autre. C'est quelque chose qu'il a jamais connu, à part jouer au keno avec un autre employé.
C'est ça.
Il y avait rien dans sa vie, rien.
Un homme qui est passé à côté de sa vie. Merci beaucoup, maître Anne-Laure Pilon et maître Laurent Moreuil d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.